Tu rêves d'un raccourci pour prendre du recul, être aligné et retrouver ce qui apporte du sens dans ta vie? Je te comprends, j'étais comme toi. Grâce au bilan de compétences nouvelle génération de Pourquoi pas moi, en moins de 3 mois, tu vas apprendre à te connaître et oser dépasser tes peurs, le tout avec plaisir et à ton rythme. Si tu veux bénéficier d'un financement à 100% avec ton compte personnel de formation, inscris-toi vite avant le 1er mai, car après, il y aura un reste à charge de 100 euros. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous dans le lien de la description.
Jusqu'à 6 mois avant de me reconvertir, je ne voyais pas du tout être entrepreneur. Mais pas du tout, pas du tout. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Je me suis réellement posé la question en me disant, ben voilà, t'as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Et je me suis dit, eh ben, on vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le boulot plus ou moins bien, c'est pas la peine, quoi. Alors ce changement, en fait, c'est vraiment une aventure familiale avant tout. Quoi, j'ai demandé l'autorisation à ma femme. C'est important. Il faut ce genre de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Toujours des peurs. Et puis, vous imaginez, vous passez que de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la défense, et puis vous basculez dans le monde de la boucherie où j'avais pas une connaissance non plus énorme. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était ma voie. Et bah, on prend des risques également. Et prendre des risques. Si on prend pas de risques, on reste finalement dans un petit monde, et ça termine pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas épanoui.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Me revoilà avec un épisode de « Pourquoi pas moi ?» Avant de commencer, je souhaite vous remercier pour tous vos messages qui m'ont énormément touchée suite à la diffusion la semaine dernière d'un épisode bonus où je vous raconte ma dernière année. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez versé une larmichette. Je vous avoue qu'en écrivant le texte et en faisant un premier enregistrement, moi aussi, j'ai les yeux qui ont un petit peu picoté. Ça n'a pas été évident, mais quand vous me dites que vous vous sentez moins seul, quand vous me dites que cela vous aide, cela me comble de bonheur et je me dis que tous ensemble, nous allons pouvoir faire de belles choses, prendre notre vie en main et arrêter d'attendre. Merci également et bravo, car vous êtes plus de 700 à vous être inscrits au programme Réalisateur pour changer de vie en un mois. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est un cadeau que je vous offre avec l'aide de 16 experts. Vous en saurez plus en allant sur le site pourquoipasmoi.co. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau Damien, une toute autre personnalité que celle de Chef Damien, cofondateur du site 750 grammes, mais un parcours tout aussi riche. À 41 ans, alors qu'il était père de 5 enfants, il a décidé que sa vie ne serait plus d'être directeur commercial dans une tour à la Défense, mais qu'elle serait dans une boucherie. Après des études de droit, un premier travail en tant qu'opérateur maritime, Damien a gagné ses lettres de noblesse dans une des plus belles réussites françaises, Capgemini. Il y a 8 ans, il quitte son CDI, reprend ses études et achète sa première boucherie, la plus vieille institution versaillaise. Bienvenue dans l'univers de Damien Zeller. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de l'objet que vous avez choisi pour vous représenter, s'il vous plaît?
Alors c'est une feuille qui est un instrument de boucher qui représente eh bien ma reconversion, puisque c'est un instrument que j'utilise quotidiennement.
Donc une feuille, c'est vraiment un gros couteau. Vous pourrez voir la photo sur Instagram et sur le blog. C'est vraiment costaud. On se dit qu'on n'a pas envie de vous embêter quand on le voit.
oui, c'est vrai que ça peut être assez impressionnant, mais c'est extrêmement important pour un boucher, puisque ça fait partie de ces instruments. Il y en a plusieurs et la feuille est un instrument. C'est l'instrument effectivement le plus peut-être impressionnant, oui.
Et pourquoi la feuille plutôt qu'une autre typologie de couteau?
Parce que je trouve que ça représente bien le métier.
D'accord. Avant qu'on parle de votre nouveau métier qui est boucher, j'aimerais bien qu'on parle du petit garçon que vous étiez. Où est-ce que vous avez grandi? Où est-ce que vous êtes né?
Alors moi, je suis né totalement par hasard en banlieue parisienne.
D'accord.
Mais sinon, je suis originaire en fait de Corrèze, donc du Massif Central, et j'ai eu un parcours. Moi, j'étais pensionnaire, donc je me suis baladé pas mal. J'étais dans le Nord parce que mon père a travaillé pendant plusieurs années à Dunkerque.
Ok.
Et puis ensuite, donc j'ai eu un petit parcours scolaire aux alentours de Dunkerque, Lille, Saint-Omer. Et puis ensuite, j'ai été également pensionnaire dans le Tarn.
Ok. Et quel type de petit garçon vous étiez? C'était quoi vos passions?
J'aimais beaucoup la nature.
Ouais.
Voilà. Ça, c'était une de mes grandes passions que je tiens certainement de mes parents et principalement de ma maman.
Parce
voilà.
Qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents? Si oui, peut-être qu'ils travaillent toujours.
Alors, mes parents, en fait, mon père était dans le maritime.
Ouais. C'est-à-dire?
Dans le maritime, il travaillait pour un grand groupe qui gérait tout ce qui était transit, tout ce qui était affrètement.
D'accord.
De bateaux.
Mmh.
Et puis ma maman a fait de la recherche bio.
OK.
Et puis ensuite s'est occupée de ses enfants.
Combien d'enfants? Vous êtes combien?
On est 6.
D'accord.
Je suis troisième sur 6.
Ouais. Vous avez 5 enfants et vous faites partie d'une famille de 6.
Exactement.
Donc des grandes familles.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Et là, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que je ferais? Enfin, si on vous posait la question, tu feras quoi comme métier quand tu seras grand?
J'avais un attrait plutôt pour la nature. Je me rappelle, je voulais être garde forestier.
D'accord.
Voilà, donc j'ai été toujours très attiré par la nature.
Ouais. Ok, mais en fait, vous n'avez pas du tout fait des études en rapport avec la nature?
Rien à voir.
Qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Moi, j'ai fait du droit.
Ouais. Pourquoi du droit?
Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et mes parents m'ont dit, tiens, fais du droit parce que ça va te structurer un peu. Et c'est vrai.
Ouais.
C'est des études qui vous structurent pas mal, oui.
Ou pas, parce que j'ai interviewé Laurent Régarès, qui est maintenant plus connu sous le nom de Chicandier, parce que c'est un humoriste. Et lui, il était juriste, mais en fait, il part dans tous les sens. Donc en fait, je crois que ça l'a pas aidé. Mais en fait, c'est parce qu'il était pas dans sa voix, et sa bonne voix, c'était justement, c'était l'humour. Et après, pour votre premier job, vous étiez opérateur maritime.
Tout à fait, oui.
Pour faire comme papa, du coup.
Alors, pas vraiment. C'était dans le même domaine.
Ouais.
Mais j'ai travaillé pour un armateur et un affréteur maritime.
Et le rapport avec le juriste
J'avais également en fait une autre casquette. Je traitais toute la partie contentieuse dans cette structure.
D'accord.
Donc voilà. Donc j'ai tiré pas mal de choses de mes études de droit.
Ouais.
Pour traiter des dossiers de contentieux.
Ok.
Voilà.
Après, vous avez fait un autre métier encore. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé directeur commercial?
Alors, avant d'être directeur commercial, j'ai effectivement intégré un grand groupe qui est Capgemini.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait du coup que vous êtes passé dans un autre univers?
J'ai eu une opportunité que un de mes amis m'a proposée.
D'accord.
À l'époque, Capgemini recherchait justement des gens qui avaient des connaissances aussi métiers.
Okay.
Et donc, j'avais une connaissance aussi du monde des assurances grâce à cette première expérience dans le monde professionnel. Donc, j'avais des relations assez étroites avec les mutuelles d'assurance maritime. Et je devais travailler pour les assurances, dans l'assurance pour Capgemini. Et puis finalement, j'ai bifurqué très vite dans le monde de la banque.
Ok, rien à voir.
Rien à voir. Et j'avais surtout une fonction effectivement commerciale.
D'accord.
Voilà.
Et vous étiez bien dans votre métier. Est-ce que vous avez déjà des signes qui vous disaient peut-être qu'un jour
Pas du tout, mais j'ai toujours été très étroitement lié à mon coin d'origine qui est la Corrèze. Donc j'ai toujours été effectivement très très attentif au métier qui s'exerçait là-bas et qui, comme vous le savez, la Corrèze, c'est quand même un coin très rural, donc où il y a beaucoup d'élevage de qualité. Et j'avais pas mal d'amis et puis également un peu de famille qui travaillaient dans ce monde-là. Et ça m'a toujours toujours très intéressé.
Et vous êtes quelqu'un qui aimait cuisiner, c'est...
J'adore cuisiner,
ouais.
Effectivement. Ça, c'est un point aussi important dans dans cette reconversion, c'est que la cuisine fait partie évidemment quoi, c'est un élément important de et une grande motivation, oui, qui m'a aidé à faire cette reconversion.
Et vous étiez connu, par exemple, Stéphane, je pense typiquement à une personne de mon entourage qui est un grand fan de viande et qui dit un jour je serai peut-être boucher. Et lui, sa spécialité, enfin, on sait que quand on va chez lui, on a une chance sur deux de manger une côte de bœuf. Vous faites partie de ce type de personnes?
Ben oui, mais il y a autre chose que la côte de bœuf. Il y a plein de petits morceaux super. Moi, j'ai découvert grâce à cette reconversion aussi plein de choses. Et il y a des choses à mijoter aussi qui sont excellentes.
Et alors, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour se dire j'arrête mon job de directeur commercial chez Capgemini pour devenir boucher?
Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été très attaché donc à la Corrèze. J'ai moi-même une maison là-bas depuis maintenant de longues années. J'ai des attaches familiales et j'ai voulu finalement avoir un lien avec mon pays d'origine. Et la boucherie faisant partie de la chaîne des métiers de l'élevage de la viande finalement en gros. Eh bien, j'ai pensé qu'il y avait effectivement une logique à devenir boucher.
D'accord. Et comment l'idée, vous êtes réveillé un matin, vous avez dit, je veux devenir boucher ou...
Ben après 20 ans d'expérience professionnelle, je me suis posé clairement la question de savoir si je voulais rester dans l'activité où j'étais. Ou bien je basculais dans quelque chose qui était différent et j'ai choisi cette option.
Parce que vous avez déjà des enfants?
J'avais déjà des enfants, oui, effectivement, j'avais 5 enfants. Donc des petits enfants à l'époque, quoi. Ils sont un peu plus grands aujourd'hui, hein, puisque ça fait 8 ans que je me suis reconverti. Donc mes enfants, ça allait de 5 ans à 15 ans.
D'accord.
Donc des enfants encore pas vraiment autonomes.
Ouais, et puis financièrement, il faut pouvoir assurer ce changement de vie aussi.
Exactement.
Votre femme travaille?
Alors ma femme travaille, oui, tout à fait.
Et donc comment ça a été perçu dans la famille et quelles étaient comment vous avez vécu ce changement?
Mais alors ce changement, en fait, c'est vraiment une aventure familiale avant tout, parce que évidemment, j'ai fait ce choix sans. Quoi, j'ai demandé l'autorisation à ma femme.
Ouais.
C'est important. C'est ce genre de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Ma famille, c'est quand même la chose la plus importante dans ma vie. Donc, je ne pouvais pas non plus faire ce choix tout seul. Donc, j'en ai parlé, on en a parlé longuement avec mon épouse, et qui est une femme charmante, évidemment, et qui m'a dit, mais vas-y, fonce, si c'est ça qui te rend heureux et qui te rendra heureux, vas-y. Et donc, j'ai fait cette bascule, et je remercie ma femme.
Et dans cette aventure, est-ce que vous avez eu des peurs?
Alors bien sûr, on a tous toujours des peurs. Et puis vous imaginez, vous passez que de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la défense, et puis vous basculez dans le monde de la boucherie où j'avais pas une connaissance non plus énorme. Donc j'ai dû passer quand même des diplômes qui me permettent, et puis une expérience qui me permettent de comprendre et de maîtriser un minimum justement ce futur métier.
Vous avez fait un petit stage dans une boucherie pour être sûr que c'était vraiment ce que vous vouliez faire?
Eh bien non. En fait, j'ai basculé totalement. J'étais persuadé, mais je pense que je fais souvent un parallèle avec le mariage. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on se connaît pas encore vraiment, mais on fait ce choix du mariage un peu sans maîtriser l'ensemble, hein, et c'est la même chose pour cette reconversion. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était ma voie, et on prend des risques également.
Ouais, forcément.
Exactement. Mmh. Et prendre des risques, si on prend pas de risques, on reste finalement dans un petit monde, et ça termine pas forcément très bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas épanoui.
Ouais. Voilà. Et vos enfants, parce que du coup, celui de 15 ans a été complètement en âge de pouvoir comprendre ce qui se passait. Parce que dans les personnes que j'ai invitées, il y en a un, Daniel Blouin, il était à la tête d'une agence de com et en fait, il a dit mais en fait, je veux plus faire ça. Donc il a vendu ses parts, mais il savait pas ce qu'il voulait faire. Et sa fille, enfin, lui a fait la gueule en mode papa, on pourra plus partir en vacances. Enfin, Laurent dont je parlais tout à l'heure, lui, bon, sa fille, elle a 6 ans, mais il lui dit mais papa, enfin, comment veux-tu que je sois fière de toi? Tu fais des blagues. En plus, c'est des blagues un peu crues. Même complètement cru. Et du coup, ouais, quand dans ces changements de vie, les enfants sont souvent.
Tout à fait. Non. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont totalement adhéré à cette reconversion. Même si ma femme, effectivement, disait mais attends, tu vas devenir boucher. Comment tu vas marier tes filles quand elles diront ah mon père est boucher, ils vont se dire c'est pas possible. Non. Mais ça s'est très très bien passé. Mon petit dernier qui avait à l'époque 4-5 ans croyait que je devenais boulanger. Alors lui, il était super content. Il n'avait pas très très bien pigé que j'étais boucher. Lui pensait aux bonbons et aux pâtisseries qu'il pourrait récupérer. Ben non, papa est boucher.
Je vais te récupérer les tripes et ça sera...
Voilà, exactement. Ça sera de la tripe et de la tête de veau tous les midis.
Et ça sera chouette. Donc du coup, vous avez mis fin à votre contrat avec Capgemini. Ça s'est bien passé, la fin du contrat?
Ça s'est très bien passé. Finalement, on a trouvé un accord pour que je parte. C'était une période où Capgemini, en tout cas dans le secteur où j'étais, cherchait pas forcément quoi, cherchait plutôt à réduire un peu leurs effectifs, ça tombait bien.
L'alignement des
voilà.
Planètes.
Ouais. Et voilà, donc on a trouvé un accord et j'ai pu basculer dans mon nouveau projet assez rapidement et puis voilà.
Donc vous avez fait une formation.
J'ai fait une formation effectivement, donc déjà dans un premier temps j'ai trouvé une boucherie.
D'accord. Ah donc la première étape c'était de trouver la boucherie.
Exactement. Okay. En fait ma première étape c'était de trouver la boucherie.
Ok.
Donc habitant depuis peu à Versailles, j'ai fait le tour des boucheries à Versailles.
Ok.
Et j'ai proposé à tous les patrons bouchers quoi, je leur ai demandé s'ils comptaient céder leur boucherie. Et là je suis tombé donc à la boucherie Godin, place du marché dans les halles de la place du marché Notre-Dame. Et je suis tombé sur l'ancien patron de la boucherie Godin, qui m'a dit, bah oui, moi, effectivement, j'ai 67 ou 68 ans, j'ai envie de partir. Eh ben, pas de problème, banco. Et lui a montré beaucoup d'intelligence parce que j'ai eu beaucoup de réactions, avant, un peu sèches. Où les gens me disaient mais attendez, vous avez rien fait, vous connaissez rien à la boucherie, vous allez vous planter. Moi je veux pas mettre en péril justement cette transmission. Je veux quelqu'un de sérieux, quoi. Bref.
Et comment vous réagissez? Vous l'avez vécu ça justement quand les gens vous disaient ça?
Je les comprenais. Hein. C'est certain qu'un quarantenaire qui arrive et qui leur explique qu'il a 20 ans de monde du service et du conseil derrière lui. Et qui leur demande en fait de devenir boucher, ça peut effectivement être un peu bizarre. Et je les comprends très bien, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, je suis tombé sur quelqu'un qui avait compris que ben j'étais motivé et qui a joué le jeu et que je revois très régulièrement. C'est un type charmant et que je remercie parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi.
Et du coup, il vous a dit OK, je suis d'accord pour vous céder la boucherie. Donc, vous avez racheté avant de faire la formation?
Alors non, je l'ai acheté pendant ma formation.
OK.
Donc en fait, j'ai commencé à suivre donc une formation à l'École nationale supérieure des métiers de la viande.
Ouais. Ça dure combien de temps les études?
Ça, c'est un an. Okay. Un an de formation en fait en alternance entre l'entreprise et puis des cours donc Porte Dorée à Paris. Et j'ai donc suivi pendant un an ces cours qui à la fin de cette année, il y a une épreuve qui vous permet d'avoir un certificat de qualification professionnelle.
Okay.
Et pendant cette année, j'ai préparé également en candidat libre le CAP de boucher.
Okay.
Que j'ai eu.
Donc ça a fait un bon planning.
C'était assez chargé.
Ouais,
il y a eu une année auparavant, juste avant de commencer en fait ces études. J'ai réussi à trouver un stage également à Rungis.
Ok.
Donc j'ai passé.
Donc l'alternance du coup ça se faisait à Rungis?
Alors non.
Non,
l'alternance c'était dans la boucherie Godin.
Ouais.
Que je comptais racheter.
Ouais.
Que j'ai racheté. Mais avant de commencer cette formation, j'ai passé quelques temps à Rungis. Okay. Pour découvrir ce monde. Donc, j'ai eu pendant quelques temps, effectivement, une vie un peu bizarre où je vivais la nuit. Ouais. J'étais chez un grossiste de volailles. Et ça m'a permis aussi de connaître très bien aussi le fonctionnement de Rungis, qui est quand même très particulier. Et puis, j'ai participé pendant cette année de formation aux achats avec le patron de la boucherie Godin, ou les achats en fait de la boucherie à Rungis.
Okay.
Ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu le fonctionnement,
parce que
c'est parce que c'est très important aussi de maîtriser ce genre de choses.
Économiquement parlant, j'imagine que ça
entre autres,
ça a vrai intérêt. Et là donc vous êtes retrouvé du coup alternant avec vos futurs salariés.
Et alors oui, avec une partie de mes futurs salariés, parce que j'ai quand même un peu changé mon équipe.
Okay. Hein.
Mais aujourd'hui, j'ai toujours effectivement la même caissière, qui est un poste très important dans une boucherie. Et mon chef boucher de la boucherie Godin est effectivement était présent. Les autres salariés sont des nouveaux que j'ai recrutés.
Ok. Parce que du coup, comment ça a été accueilli votre arrivée dans la boucherie?
Bah, ils m'ont regardé comme un oiseau bizarre. Hein. C'est quoi ce type qui débarque et qui et c'est vrai que c'est un choc quand même radical parce que les horaires.
C'est quoi les horaires d'un boucher?
Les horaires d'un boucher, c'est quelqu'un qui se lève très tôt.
Ouais.
Et qui alors le boucher et puis quand vous êtes patron boucher, c'est quelqu'un qui se lève très tôt.
Ouais.
Et qui se couche et qui rentre chez lui assez tard. Parce qu'il y a toute la partie gestion en fait de l'entreprise aussi à prendre en compte. Donc c'est du un réveil. Alors quand je pars à Rungis, je me réveille tous les matins. Je me réveille à 4 heures. Quand je suis à la boucherie, je me réveille un peu plus tard. Donc c'est un gros travail journalier, mais passionnant.
Et du coup, du lundi au samedi, au dimanche?
Alors, je travaille le dimanche, mais le lundi, même si c'est off, la boucherie est fermée, il y a un gros travail aussi administratif, donc on travaille un peu tous les jours.
Ouais. Souvent, mes invités me disent qu'ils ont plus, comme ils ont trouvé leur place, ils ont plus l'impression de travailler. Vous avez le même sentiment?
Exactement, exactement. Mais en plus, vous travaillez pour vous-même. Ouais. Mais en tout cas, moi, je travaille pour moi-même, c'est mon entreprise.
Ouais.
Puisque depuis un an et demi, j'ai une nouvelle boucherie aussi.
D'accord.
À Versailles.
Ok.
Donc, j'ai deux boucheries aujourd'hui, donc c'est un travail de tous les jours. Mais vous travaillez, moi, ça me pose pas de problème, hein, travailler. Alors ensuite, il faut savoir allier aussi sa vie de famille.
C'est ça, c'est surtout quand on a cinq enfants. Déjà, quand on a un ou deux, c'est déjà souvent un challenge. Avec cinq, si on peut arriver à passer du temps avec chacun.
Tout à fait.
Comment vous arrivez à gérer? C'est quoi votre clé de réussite pour ça?
Eh bien, écoutez, déjà, je pense que les horaires que j'ai, je sais les aménager. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi parce qu'on a une rupture entre 13h et 15h30, 16h même à chaque jour. Donc ça me permet de rentrer chez moi aussi. Donc j'ai la possibilité de déjeuner avec eux, de les voir. J'avais pas cette possibilité dans mon ancienne vie.
C'est sûr.
Et puis aussi ensuite on s'organise et puis on part. Moi je me fixe, ça c'est très important pour moi. Chaque année je pars avec ma femme pendant une semaine, 10 jours, tous les deux en amoureux.
Ouais.
Et ça c'est le plus important.
Ouais. C'est sûr que privilégier des moments à deux, c'est assez essentiel.
Tout à fait.
Et ça a été quoi vos premiers moments de joie où vous vous êtes dit c'est bon, il y a eu la peur forcément, comme dans tout changement et dans la vie. Et les premiers signes où vous vous êtes dit super.
Le point le plus important, c'est de s'assurer que effectivement l'activité ne baisse pas de la boucherie.
Ouais.
Donc c'est au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, là vous dites ça roule quoi, ça roule, je progresse, j'ai un chiffre qui augmente, j'ai une clientèle qui est satisfaite, je reçois des satisfactions parce que j'ai des retours tout à fait sympas de ma clientèle, voilà, ça c'est le c'est ce qui m'a permis de me dire, bah voilà, tu te plantes pas, et puis c'est des grosses satisfactions, évidemment. Ouais.
Surtout que, du coup, avant, il y avait pas de vente en, j'ai vu que vous avez fait de la vente en ligne, ce qui avait fait vraiment, alors, bien décoller le chiffre d'affaires.
Je travaille effectivement avec un site en ligne.
Ouais.
Qui est un partenaire. Et donc, on travaille comme ça. Mais au début, je travaillais beaucoup avec eux.
Ouais.
Puis je me suis aperçu que, justement, cette activité, c'est une activité de contact aussi. Donc, je privilégie aujourd'hui le contact avec ma clientèle qui vient dans la boucherie. C'est deux métiers qui sont très différents.
Ouais. Voilà. Ouais, et puis enfin, je suis arrivée plutôt à Versailles. Je me suis dit allez, j'allais profiter d'un peu de verdure, de me faire un petit tour dans le parc. Et donc je suis arrivée à midi, au moment au cœur du marché. Et en fait, bon, bah, vivant en plein Paris, il y a pas du tout. Enfin, on ressent un truc complètement différent à Versailles. Enfin, je voyais une queue dans les boucheries, dans tous les commerces. Et je me suis dit waouh. Enfin, en effet, enfin, on sent que les gens prennent le temps. Chose qui est pas forcément le cas dans bah notamment à Paris où les gens ils y vont enfin donne-moi mon morceau de viande et puis on y va quoi.
Oui, on a une place particulière effectivement à Versailles hein, puisqu'on est à proximité de Paris, très très proche de Paris, mais on dit que Versailles est la première ville de province après Paris.
Ouais,
et c'est vrai puisque c'est une ville qui est tellement belle, qui est aérée, qui est agréable parce que jolie, qui est donc on a cette chance effectivement à Versailles d'avoir en plus une clientèle fidèle, des gens qui ont des pratiques comment dire traditionnelles, c'est-à-dire qui mangent encore de la viande,
ouais. On est loin du bobo parisien qui mange que du vegan et
voilà, ouais. voilà. Non, on a une clientèle très agréable, ouais. Tout à fait.
Et quand vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez devenir boucher, comment ils ont réagi?
Ah ben,
enfin en dehors de votre femme et
oui,
du coup,
oui, mais mon groupe d'amis, bon, ils ont dû se dire, mais putain, il est totalement cinglé ce gars. Il a pété un boulard, il fait sa crise de la quarantaine. Bref, non, ça a été ceux qui n'approuvaient pas ne disaient pas grand-chose.
Non, il y a personne qui vous a dit, c'est complètement, j'ai vécu à Marseille, t'es complètement fada.
non, pas vraiment. Non, moi j'ai eu des parents et ma famille qui étaient amusés de voir ça, ouais. Mais.
Amusé mais soutenant.
Oui, soutenant. Mais même quoi, ma belle famille aussi a été vraiment charmante.
Et est-ce que les gens ont dit bah oui c'était une évidence ou plus surpris?
Je pense que bah, ils me connaissaient quand même pendant 20 ans. J'étais quand même j'étais dans un autre monde. Donc c'est vrai que la rupture est quand même très radicale, très brutale. Donc ça, je pense, surpris beaucoup de monde. Oui.
Ouais. Et est-ce que dans ce parcours, il y a des personnes qui vous ont inspiré, des lectures, des films, des personnalités, pas forcément personnalités célèbres, hein, mais
pas vraiment, non.
Non.
Non, non.
Il y a pas de.
Non, pas vraiment. J'ai été aidé par quelqu'un qui a fait à peu près le même parcours.
Ok.
Timothée Sautreau, qui m'a aidé, qui est boucher aujourd'hui à Paris, qui a travaillé beaucoup avec Yves-Marie Le Bourdonnec.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils. Et qui est aujourd'hui donc boucher à Paris.
C'est quelqu'un que vous connaissiez ou c'est quelqu'un que vous avez sollicité
Que j'ai sollicité.
D'accord, ouais. En fait, il ne faut pas hésiter à solliciter les gens qu'on ne connaît pas et.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Au pire, ils diront non.
Oui, exactement.
Ouais. Non, ils répondront pas.
Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, est assez précurseur dans cette vague un peu de néo-boucher.
Ouais.
Parce qu'il y en a de plus en plus de types un peu comme moi, avec un profil à peu près similaire, qui ensuite bascule dans le monde de la boucherie, après avoir pratiqué le métier de marketing, dans le marketing, dans le conseil, etc.
Et quand vous disiez, vous vouliez faire, je reviens là-dessus sur le fait de dire, vous vouliez un métier en rapport avec la Corrèze, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, c'est boucher ce que je veux faire?
Bien, en fait, je voulais avoir un lien avec la Corrèze.
Ouais.
La Corrèze, c'est quand même un endroit où vous avez quand même une qualité en termes d'élevage.
Ouais.
Très importante. Donc, je voulais intégrer en fait dans la filière viande.
Okay.
La filière viande, ça va de l'éleveur jusqu'au boucher. Et au début, en fait, ce qui m'a plutôt motivé, je voyais qu'à Versailles, il y avait beaucoup d'éleveurs qui venaient vendre en caissette leur propre production. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là dans ce domaine-là. Et en fait, en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que ça aurait été quoi. C'était quand même plus facile d'avoir quelque chose de fixe, de pouvoir vendre à un endroit. Et puis petit à petit, ben j'ai creusé et je me suis dit mais c'est évident que il faut être bouché pour vendre justement cette production de Corrèze. Parce qu'une partie effectivement de ce que je vends vient de Corrèze.
Ouais, c'était la question que j'allais vous poser. Ouais.
Voilà. Vient de Corrèze, je tiens à faire vivre mon coin. Ouais. Donc j'essaie de trouver des filières corréziennes. Et comme la Corrèze est une des régions les plus en vue pour tout ce qui est élevage, eh bien j'essaie de faire travailler ce coin-là.
Super.
Et ça c'est très motivant. Ouais. Et ça, vous voyez, c'est donner du sens à sa vie professionnelle. C'est trouver des leviers de passion, des leviers qui vous permettent de vous lever tôt le matin.
Oui, parce qu'il faut...
Exactement. Ouais. Bah oui, il y a beaucoup de contraintes dans ce métier, mais que j'accepte évidemment. Et vraiment, je les regrette pas. Mais il faut trouver par ailleurs des choses qui vous motivent.
C'est ça.
Et qui vous donnent un sens. Ouais. Et c'est ce sens-là que j'ai trouvé, moi.
J'ai interviewé une championne de rugby. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on est à très haut niveau, enfin au plus haut niveau en France en rugby, quand on est une femme, on ne gagne pas d'argent. Donc ils sont pas salariés, donc on est obligé d'avoir un travail à côté. Et elle disait, bon, il faut trouver quand même le sens d'aller s'entraîner dans la boue tous les soirs, sachant qu'en plus elle est à Valenciennes. Donc donc en plus le climat c'est costaud. Et c'est vrai qu'en effet le sens, c'est pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'ai envie de vivre.
Exactement. Ouais. Exactement. Mais voilà, moi j'ai trouvé la voie qui m'épanouit.
Ouais, bah c'est merveilleux d'entendre ça. Et si le petit Damien de 6 ans vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait aujourd'hui ?
Bah, je pense que il serait content. Il serait content. Oui, ouais, tout à fait. Mais parce que moi je me souviens petit, j'aimais aussi ce côté rentrer dans les boucheries, dans les charcuteries ou voilà, quelque chose qui avait un lien avec les animaux, avec la nature, puisque c'est ça.
Et puis le contact humain, parce que finalement vous avez été directeur commercial et en fait, je suis assez convaincue qu'on retrouve en fait dans son, même quand on change de vie. Enfin, moi, j'interviewe pas que des gens qui ont changé de vie, mais c'est des gens qui ont écouté leur petite voix et qu'en fait, finalement, dans la vie d'avant, il y a des choses qu'on a apprises et dont on se sert, même si le métier n'a rien à voir en fait.
Bien sûr, mais je pense aussi on est enclin quoi. Et ça, c'est personnel. Si on aime le contact ou pas, puisque j'ai un contact évidemment avec ma clientèle, mais j'aime aussi ce contact que je peux avoir avec mes gars, avec mes bouchers. J'aime le contact que je peux avoir avec mes fournisseurs à Rungis ou ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est inné, quoi, qui est en soi. Ouais. Si on aime ça, ben il faut voilà quoi, il faut l'exploiter. Et c'est le cas. Et puis, pour vous dire aussi, en lien avec ça, c'est que dans mes anciens métiers, j'étais un peu le maillon d'une chaîne.
Ouais.
Alors que là, je sais et je vois ce que je fais. Chaque matin, quoi, j'ai l'ensemble en fait des activités. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Moi, comme patron boucher, eh bien, je suis aussi bien technicien, je suis vendeur, je suis acheteur, je gère une équipe, je fais de la compta, je fais de la gestion, je fais tout.
Du marketing.
Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais en revanche, il y a une grosse satisfaction.
Ouais.
Parce qu'on voit l'ensemble, en fait, du spectre d'activité qu'a votre métier.
Et puis l'impact de chaque chose que vous faites.
Exactement. Ouais. Ah ben, en plus comme en moins.
Ouais.
Mais ça, au moins, c'est ensuite mon propre chef, c'est moi-même, hein. Ouais. Et puis ici ma clientèle évidemment.
Est-ce que vous un jour vous étiez déjà dit que vous aviez envie d'être entrepreneur, parce que c'est de l'entrepreneuriat aussi?
Totalement, oui, c'est eh bien écoutez, non, c'est très curieux, j'ai jusqu'à 6 mois avant de me reconvertir, je me voyais pas du tout être entrepreneur, mais pas du tout. Et puis il y a eu un déclic, je sais pas pourquoi.
Vous savez pas ce que, non, c'est, il y a pas un...
Si, je me suis réellement posé la question en me disant, ben voilà, t'as 40 ans, t'as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Et je me suis dit, eh ben, on ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le boulot plus ou moins bien, c'est pas la peine, quoi. Donc ça m'a effectivement peut-être j'ai vraiment pris conscience de ça et ça m'a permis justement d'avoir ce déclic.
C'est fou comme à 40 ans il se passe ou à plus ou moins 2-3 ans il se passe des choses dans la vie des gens. Alors il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine, d'autres la floraison, enfin
la maturité aussi.
La maturité aussi, ouais, c'est clair, c'est fou de voir il se passe des vraies choses et on se dit mais en effet la vie elle est trop courte, enfin
ben la vie est courte et il faut faire ce qu'on aime faire, parce que si c'est pour se tenir à un truc qui n'est qu'alimentaire, ou c'est un peu dommage. Ouais. Et souvent on voit autour de nous ben des expériences de ce type qui tournent mal, parce que ça, on tombe dans la dépression, voilà,
et le burn-out.
Ben oui,
ouais, bien sûr. Bien sûr,
c'est parce qu'on sent on est coincé et on sait pas comment s'en départir.
Ouais, en fait on se dit qu'on est dans une zone de confort, on parle beaucoup de la zone de confort en ce moment, on dit sortir de sa zone de confort, mais finalement moi la question que je me pose de plus en plus, c'est finalement je pense avoir la réponse, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une zone de confort, en fait, quand on fait métro boulot dodo, que potentiellement on est tendu et compagnie. Alors oui, ça fait peur ce qui va se passer après, parce qu'on forcément l'humain, quand il sait pas ce qui se passe après, l'inconnu, ça fait peur, mais finalement c'est, si on n'est pas heureux, ça ne peut être que mieux, en fait.
Ben oui, il faut savoir prendre des risques dans la vie, et je vous le répète encore, ce parallèle entre le mariage et ce changement, on maîtrise pas tout. Ouais. Mais ça vaut le coup.
Enfin, mon mari, il a pris moins de risques. Il a attendu 14 ans on s'est marié au bout de 14 ans.
Ben voilà.
Il s'est dit, on attend de valider que les enfants sont beaux, tout ça.
Bah, moi, en un mois et demi, j'avais demandé la main de ma femme.
Un mois et demi, waouh.
Ouais, après l'avoir rencontrée.
Ouais, donc vous êtes vous écoutez bien votre petite voix. En effet, je comprends le parallèle avec la.
Voilà.
Ouais. Ouais, un mois et demi. Et ça fait combien de temps vous êtes mariés?
On est mariés, ça va faire 25 ans l'année prochaine.
Waouh, bravo. Ouais. Surtout quand on voit tous les divorces, c'est beau à entendre.
Oui, non, mais c'est sympa. Ouais.
Qui dit choix dit renoncement, qu'est-ce que ça vous évoque?
J'aime pas trop renoncement, concession, vous voyez, ce genre de choses.
Ouais.
Je trouve que c'est négatif.
Ouais.
On prend les choses différemment, vous voyez. Mmh. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on n'imagine pas et puis on le fait, et puis on fait des choix, on n'imagine pas qu'on va se lever tous les matins à 4h du matin, et puis comme on le fait avec passion, ben en avant, quoi, ça fait partie du package.
Ouais, il y a tellement de bonheur à côté que
oui, et puis un épanouissement, et puis donc j'aime pas trop les renoncements, ça me
pas de soucis.
Ça fait pas partie de mon vocabulaire.
Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et comment vous les avez gérées?
Ben, effectivement, du coup, dans la reconversion, le rachat en fait de la première boucherie, même de la deuxième boucherie d'ailleurs, il faut convaincre la banque, parce qu'on a besoin de financement. Et quand vous présentez, vous avez 20 ans d'expérience dans un autre domaine, dans un domaine totalement différent, ben il faut avoir des arguments, il faut avoir des convictions, puis il faut aussi, certaines fois c'est un peu la chance, tomber sur des gens qui comprennent. Ça c'est extrêmement important.
L'histoire.
Mais c'est pas évident. Et je peux comprendre aussi les réactions.
Même pour la deuxième, du coup, parce que là vous aviez fait, pour la première on peut comprendre, mais la deuxième,
même pour
vous
la
aviez
deuxième.
Fait vos preuves.
Même pour la deuxième, ouais. Parce que c'est toujours. Toujours, oui, mais alors, est-ce que ça va aller? Il a une première, d'accord, ça a marché, mais est-ce que la deuxième, ça va?
Ouais. Est-ce que c'est pas de la chance?
C'est très frileux.
Ouais, frileux, c'est le concept d'un banquier.
C'est le risque, on va calculer le risque. Ah bah non, mais lui, il rentre pas dans les standards, donc ça va pas aller.
Du coup, c'était qu'un investissement via des banques, vous aviez pas fait de love money, donc.
Non.
Non.
Moi, c'est. Alors, j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que moi, j'ai un associé.
D'accord.
J'ai un associé, on s'est lancé dans cette aventure et je me suis lancé avec un de mes amis, Benoît, qui travaille dans le monde de la finance, hein. Il travaille pour des fonds d'investissement lui participe à cette aventure en justement structurant, et c'est lui qui a été vraiment la cheville ouvrière pour ces aspects de financement, de structuration aussi de société. Il a beaucoup travaillé là-dessus, il travaille beaucoup sur ces aspects-là. Donc ça a pas mal aidé aussi.
Ouais. Ouais, ça, et puis ça rassure un banquier.
Ça rassure un banquier parce que lui a cette connaissance, c'est son métier d'origine. Et donc ça aide beaucoup.
Ouais. Ouais.
Ça a beaucoup aidé à partir et à faire à concrétiser justement cette reconversion.
De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ?
De quoi je suis plus fier ? Je suis content de faire vivre une dizaine de salariés, de faire vivre une dizaine de familles. Ça c'est une grosse satisfaction.
Ouais. Ouais. Si quelqu'un vous dit que toute votre réussite n'est liée qu'à de la chance, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Je suis certain que la chance fait partie aussi de la réussite. Mais la chance, il faut la provoquer un peu.
Comment vous la provoquez, vous, du coup ?
Ben, en étant soi-même, finalement.
Ouais.
Je ne sais pas trop répondre à cette question, mais c'est la chance. Oui, il y a de la chance, c'est certain, mais comme partout. Maintenant, il faut avoir... Il faut être pugnace, il faut avoir son idée, s'y tenir, et puis la chance arrive. Hein.
Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous aimeriez du coup donner ?
Un conseil dans le cadre de la reconversion ?
Ouais, ou dans l'entrepreneuriat ou.
Ben il faut croire à son idée, il faut être convaincu et puis il faut être. Je pense que si on a une idée, une passion, il faut vraiment y réfléchir et savoir comment on peut la matérialiser. Vous voyez?
Ouais.
C'est ce que modestement j'ai essayé de faire quoi avec ma petite aventure là. C'est que
une belle aventure.
Ouais, une belle aventure, ouais, tout à fait. C'est cette passion pour mon coin qui a fait germer justement cette idée de venir boucher. Oui.
Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait croire que l'idée, elle va venir. Bah voilà, j'aime cuisiner, donc j'ai envie de venir boucher. Mais en fait, c'est pas du tout ça votre histoire. Et c'est ça qui, enfin, c'est hyper intéressant de se dire que finalement, en fait, moi, je me suis abonnée à plein de groupes Facebook de reconversion professionnelle parce que bon bah forcément, c'est un peu mon sujet du moment. Et puis je le vis et c'est hyper intéressant de voir les questionnements, les gens. Et puis en fait, on pense comme on est français, quoi. Que les choses sont dans des cases, donc en fait, on va faire un bilan de compétences, donc on va nous dire, bah, c'est ça ce que tu veux faire, mais en fait, non, ça se passe pas comme ça,
non,
en
non,
fait.
Non. Il y a des choses très abstraites, finalement,
ouais.
Qui rentrent en compte. C'est vrai que on est très, malheureusement, il y a beaucoup de, comme vous le dites, on essaie de faire rentrer les choses dans des petites cases ou moyennes ou des grandes cases. Non, c'est quelque chose qui genre d'aventure, ça passe au-delà de tout ça.
Ouais.
Et la difficulté justement de se faire comprendre, de se faire accepter aussi bien par les banques que par d'autres. Moi, je vois que par exemple la boucherie Godin, c'est une concession auprès de la mairie de Versailles. Ça a été aussi compliqué à faire comprendre que mon aventure et mon désir justement d'entreprendre dans ce et je peux comprendre ça parce que c'est pas rassurant. On a besoin aujourd'hui de se rassurer.
Ouais.
On a besoin, c'est pas de risque, on va essayer de, mais certaines fois il faut savoir aller au-delà. Il y a des personnes qui vont au-delà et heureusement
rien de grand se fait si on pousse pas les limites, en fait.
Exactement. Ouais. Et si on prend pas de risque.
Ouais.
Et heureusement, il y a des gens qui ont réussi à m'écouter, quoi, qui ont eu cette capacité à m'écouter,
ouais.
Et à me comprendre.
Surtout qu'en plus, j'ai lu que la boucherie Godin, c'était une des plus vieilles de Versailles.
Tout à fait, c'est la plus ancienne boucherie de Versailles.
Ouais. Donc c'est chouette de dire que c'est sûrement le plus jeune boucher qui tient à la plus ancienne.
Bah voilà.
Ouais, c'est
voilà.
Un petit clin d'œil du destin.
Peut-être.
C'est quoi vos prochains défis ? Prochain challenge ou prochaine.
Je me dis qu'il y a moi j'ai plein d'idées mais qui sont pas forcément dans la boucherie.
Mm-hmm.
Alors si moi mon dernier défi c'était de reprendre cette deuxième boucherie, ouais. Qui est la boucherie des Carrés dans le quartier Saint-Louis, hein, qui est à 800 mètres de la boucherie.
C'était quand
Godin. C'était il y a un an et demi.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui marche très bien et je suis très très content parce que j'ai une bonne équipe aussi. D'ailleurs hein, cette aventure. Elle ne peut être réussie que grâce aussi à mes équipes.
Ouais, forcément.
Des personnes que j'ai pu rencontrer qui sont vraiment de grande qualité, qui aiment leur métier, qui sont, et ça c'est extrêmement important.
Surtout que j'imagine que manager des bouchers, c'est pas la même chose que manager des commerciaux.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais bon, ça reste, on a tous des, je dirais, des, il y a des basiques, hein.
Ouais, donc, même dans la relation à l'autre.
Ouais, exactement. Mais moi, j'aime tellement ça, c'est très direct, c'est très concret. Ouais. Quoi, il n'y a pas de
chichi pompon, comme on dit dans le
sud. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. Et donc là, ma dernière boucherie, ça, c'était mon dernier projet. Et puis, j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres projets, mais, qui sont aussi très liés à ma région,
ouais.
Qui sont pas très très matures, donc je vous en parlerai pas plus. Mais
on en reparlera plus tard.
Voilà, exactement. Et non, j'ai encore plein de projets.
Ouais.
Plein de projets. Ouais.
Bah, c'est ça qui est chouette. Ouais. En fait, quand j'ai lancé le podcast, je m'étais dit je vais interviewer des gens qui ont changé une fois de vie et puis si c'est des changements de vie. Mais en fait, je me rends compte que non, en fait, on a tous plusieurs vies en fait et c'est normal de pas avoir envie de la même chose à 30 ans, à 40 ans, à 50 en fait.
Ouais.
Et quelqu'un qui arrive à dire qu'il veut la même chose à 30 qu'à 50, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est
Ouais, effectivement, c'est très lié effectivement avec vos attentes du moment.
Ouais.
C'est vrai que le jeune homme de 20 ans que j'étais, n'était pas le même que celui de 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Et ben, je me dis, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres idées.
Et puis le monde a besoin d'autres choses aussi. Parce que qui a dit dans ma génération je vais être community manager, le métier n'existait pas en fait. Donc,
Tout à fait. Tout à fait.
Avant qu'on se quitte, à qui avez-vous eu envie de dire merci et pourquoi?
Merci pour cette reconversion.
Dans votre vie.
À ma femme, avant tout.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que justement, sans elle, rien ne pourrait se faire. Parce que elle est là pour m'aider à avancer. Elle est là pour me montrer certaines choses que je ne vois pas. Donc ça, ma femme avant tout, et puis aussi mon associé Benoît, qui est également pas du tout dans le métier de la boucherie, mais qui est également mon miroir.
D'ailleurs, quand c'est vous qui êtes allé le voir en disant bah voilà, j'ai un projet de boucherie, ouais. J'ai envie que tu sois mon associé.
Ouais. Ouais.
C'est arrivé directement dans votre tête en disant bah j'ai envie que ça soit lui
Ouais. Benoît, c'est quelqu'un qui, on se ressemble pas trop, et ça c'est très important. Ouais. On se complète beaucoup, à mon avis, et c'est lui qui est un peu le miroir qu'on a besoin, qu'on discute. Et j'avais besoin absolument d'avoir quelqu'un avec moi dans cette aventure. Je ne me voyais pas partir tout seul.
D'accord.
Parce que c'est une aventure professionnelle où on a besoin, qui est un peu risquée, mais on avait besoin de cette discussion qu'on a toujours d'ailleurs.
Vous parlez tous les jours?
On se parle pas tous les jours, mais on se parle assez régulièrement. Je pense que c'est aussi c'est la clé du succès.
Et souvent, je vois mon mari s'est associé avec un de ses amis. C'est pas simple tous les jours. Ça a pas été compliqué pour votre relation d'amitié?
Non. Non, on a beaucoup de chance parce que j'ai également des exemples d'associations, même avec des amis qui sont passés pas forcément très très bien. Finalement, on s'est trouvé. Ouais. Ouais.
Super. Merci beaucoup, Damien.
Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Moi, j'étais content de pouvoir témoigner de cette expérience qui pourra peut-être nourrir aussi ceux qui souhaitent aussi, qui ont une idée de reconversion, qui souhaitent partir dans une aventure.
Pour qu'ils écoutent leur petite voix.
Exactement. Ouais.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai eu la chance de rencontrer Damien une semaine avant le confinement. Merci à Bertrand Leblanc-Barbedienne pour m'avoir présenté Damien. D'ailleurs, si vous aussi, vous pensez à une personne que je pourrais interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer un email à pourquoipasmoi.co@gmail.com. Je vous dis à jeudi prochain.